Le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La loi pour l'école de la confiance examinée à l'Assemblée, à quoi va servir la création d'un conseil de l'évaluation ? Explication d'Hakim Kasmi dans un instant. Plus de 80 permanences au domicile de parlementaires dégradées depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, analyse de Rosalie Lafarge. L'Iran célèbre 40 ans de République islamique. Le président Hassan Rouhani promet l'échec des plans démoniaques de ses ennemis Israël et les États-Unis. Et puis en Espagne, Pedro Sanchez envisage de convoquer des législatives anticipées. L'annonce de la dissolution du Parlement pourrait aider le gouvernement socialiste à faire voter son budget 2019. C'est le premier grand texte sur l'école du quinquennat Macron. Le projet de loi sur l'école de la confiance est soumis aux députés. Il vise à élever le niveau général des élèves et à promouvoir la justice sociale. Un texte qui prévoit de rendre l'instruction obligatoire dès 3 ans, qui organise la refonte de la formation des enseignants et qui instaure un conseil de l'évaluation en remplacement du CNESCO, le conseil d'évaluation du système scolaire. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir l'équipe.
Alors quel est l'objectif de ce nouvel organisme ?
Alors, ce dispositif qui est déjà testé à Nantes et bientôt à Montpellier aura pour but d'évaluer les résultats scolaires des établissements au lycée et au collège. Il tiendra également compte d'autres critères, comme par exemple le climat scolaire ou encore la sécurité des établissements. Marianne Lévesque, secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale.
Le but de cette évaluation, c'est d'avoir évidemment un constat, que l'établissement puisse se situer par rapport aux établissements comparables et qu'on en déduise un plan d'action pour améliorer, si nécessaire, le fonctionnement de l'établissement. Nous, on préfère avoir une évaluation objectivée des choses plutôt qu'avoir des rumeurs sur le positionnement de tel ou tel établissement.
Du côté des proviseurs et des principaux, si on accueille favorablement cette mesure, attention à ne pas mettre en concurrence les établissements entre eux, notamment entre ceux de centre-ville et l'éducation prioritaire, rappelle Philippe Vincent, secrétaire général du SNPDMN, le principal syndicat des chefs d'établissement.
Les indicateurs ne sont pas les mêmes, les conditions ne sont pas les mêmes, les populations ne sont pas les mêmes. Donc il y a tout un tas de paramètres qui sont extrêmement différents. C'est pour ça que je dis qu'il faut partir d'une auto-évaluation de l'établissement, c'est-à-dire prendre l'établissement dans lequel, l'état dans lequel il se trouve, voir quelles sont ses possibilités d'améliorer l'ensemble de ses performances et pas juste les indicateurs de résultats, et voir au bout d'un certain temps si ça a produit ou pas des effets.
Après une phase de test, d'évaluation, eh bien ces dernières seront mises en place définitivement dans tous les établissements dès la rentrée 2020.
Avec ce projet de loi pour une école de la confiance, Jean-Michel Blanquer caresse le rêve de faire remonter la France dans le classement international PISA qui évalue les performances des systèmes scolaires du monde entier. Classement toujours mené en Europe par la Finlande, pays où la confiance et la bienveillance sont les maîtres mots, Audrey Tison.
Ne parlez pas de contrôle ou de notes aux parents et aux professeurs finlandais. Ici, les compétences sont évaluées au fil de l'année. Des jeux et des activités manuelles pour apprendre, des activités proches de la nature. Chaque professeur est libre de choisir sa méthode et de mélanger les matières. Le but, ça n'est pas de former une élite, mais que tous les élèves comprennent. Éric Charbonnier est spécialiste de l'éducation à l'OCDE.
C'est une école où on redouble quasiment jamais. C'est-à-dire, c'est vraiment le devoir de l'enseignant de trouver un moyen adapté à tous les enfants pour qu'ils puissent acquérir les connaissances de base, les compétences. C'est une école inclusive, c'est-à-dire que vraiment on accueille tous les enfants avec le même traitement. C'est une école où les enseignants sont très bien formés, notamment sur le volet pédagogique. C'est une école de coopération, les enseignants travaillent ensemble. Et puis c'est une école qui est valorisée par les parents. Il y a un grand climat de confiance entre les parents et les enseignants.
Mais ce modèle a tout de même quelques limites. L'accueil de nombreux élèves étrangers, notamment estoniens ou syriens, peut poser problème pour assurer les cours en langue finnoise. Et surtout, les crédits publics ont baissé ces dernières années. Moins de professeurs en appui pour les enfants en difficulté et les effectifs par classe ont tendance à augmenter. Les écoliers finlandais ont récemment perdu quelques places au classement international PISA, mais ils restent loin devant les Français.
Et dans du grain à moudre, il sera question de l'école inclusive. Le projet de loi santé sera présenté après-demain au Conseil des ministres. Ce matin, Édouard Philippe et Agnès Buzyn ont effectué un déplacement en Indre-et-Loire sur le thème des soins de proximité. À Avoine, près de Chinon, ils ont visité une maison de santé pluridisciplinaire universitaire, structure visant à regrouper médecins et soignants libéraux. Le Premier ministre a qualifié cette réalisation de remarquable. Il souhaite qu'elle soit dupliquée ailleurs en France pour lutter contre la désertification médicale. Marie-Ange Lescure.
À la maison de santé, les 6 médecins généralistes accueillent chacun près de 1500 patients au fur et à mesure des départs en retraite de leurs confrères. Il y a aussi des dentistes, des kinés, des diététiciennes, des orthophonistes. Au total, une trentaine de professionnels de santé. Et d'ici quelques temps, une nouvelle extension, comme l'explique le docteur Alain Giacomino, l'un des fondateurs.
L'extension a pour but d'accueillir en particulier un pôle mère-enfant, c'est-à-dire avec une sage-femme, une pédiatre et puis pouvoir gérer cet aspect-là des choses. Et puis essayer peut-être aussi de faire une consultation avancée de spécialité, puisque nous sommes quand même loin de Tours et que nous manquons de spécialistes.
La visite du Premier ministre a été aussi l'occasion pour le président François Bonneau de faire remarquer que la région Centre aussi avait porté financièrement cette réalisation.
J'étais heureux d'entendre le Premier ministre saluer à la fois l'engagement de la région et la dynamique qui se crée sur ce territoire. Rien ne peut se faire sans les collectivités territoriales. Et en l'occurrence, la région, qui n'a pas la responsabilité de la santé, a choisi d'intervenir en finance entre État et région. 50% de tout ce que vous voyez en termes de construction, c'est colossal.
La maison de santé du Véron était déjà l'exemple local à suivre. Elle est désormais une référence nationale.
Selon les derniers chiffres du gouvernement, près de 70 000 salariés sont au chômage partiel en raison de la mobilisation des Gilets jaunes, soit une facture de près de 40 millions d'euros pour le ministère du Travail. Une réunion est organisée après-demain à Bercy avec les représentants des commerçants et des artisans. L'État, qui est aussi sollicité de toutes parts pour payer les dégâts sur le mobilier urbain, les chaussées arrachées, les commerces dégradés. Des dégradations parfois ciblées, le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez, a recensé plus de 80 dégradations, exactions commises sur des permanences parlementaires ou sur les domiciles des élus. Il dénonce une atteinte grave à la démocratie, Rosalie Lafarge.
Il y a eu des menaces de mort par courrier, des permanences vandalisées, des coups de feu tirés devant le domicile d'un député En Marche. Et maintenant, la tentative d'incendie de la maison du président de l'Assemblée nationale. Jusqu'où va-t-on aller, se demande le député LREM du Val-d'Oise, Aurélien Taché.
Évidemment qu'on a franchi un cap. On a dépassé le stade des tags, on a dépassé le stade de la violence symbolique. On est passé sur une menace physique. Et quand je vois les élus de la République, je pense à la sénatrice Esther Benbassa, je pense à Daniel Simonet, à tous ceux qui étaient dans la rue pour marcher avec les gilets jaunes en direction du Parlement, qui alimentent, parce que eux, ils doivent avoir les références nécessaires, cet anti-parlementarisme, je suis profondément inquiet sur ce que peut devenir la démocratie dans notre pays.
Mais pour le spécialiste de l'histoire politique contemporaine Jean Garrigue, on dépasse là l'anti-parlementarisme. Ce n'est plus seulement la fonction, mais l'individu qui est en cause. Et à ce point-là, c'est du jamais vu sous la Ve République.
C'est considérable et c'est totalement inédit. Il y a un tel discrédit des pouvoirs institutionnels aujourd'hui qu'on va toujours plus loin. Mais c'est aussi dû, je pense, au manque d'expérience politique, au manque de tradition politique de ceux qui s'en prennent à ces députés, qui conduit à des actes de violence inaccoutumés.
Ces actes de violence visent principalement les parlementaires de la majorité. Sur les 80 recensés, plus de 50 marcheurs ciblés. Certains ont reçu une protection policière au moins pendant un temps. Et désormais, selon le ministère de l'Intérieur, les gendarmes et policiers prennent en compte plusieurs domiciles et permanences dans le cadre de leur patrouille.
Marine Le Pen a déposé une plainte pour menace de mort. L'inscription « Une balle dans le front » avait été peinte sur un mur de la salle polyvalente où la présidente du Rassemblement national tenait meeting samedi dans la Manche. Le procureur de Paris et le préfet de police ont été saisis après la découverte de plusieurs inscriptions antisémites dans la capitale ce week-end. Sur une porte de garage dans le premier arrondissement, sur un mur du 18e, sur des boîtes aux lettres où avaient été dessinés des portraits de Simone Veil dans le 13e ou encore sur la vitrine d'un restaurant de l'île Saint-Louis. Après le temps des excuses, celui des sanctions contre la Ligue du LOL, de nombreux témoignages de femmes victimes de cyberharcèlement ont révélé ces derniers jours les agissements de ce groupe Facebook. Certains membres de la Ligue du LOL, uniquement des hommes et majoritairement des journalistes, ont reconnu avoir dépassé les bornes. Ils ont publié des excuses, mais maintenant les rédactions qui les emploient prennent des mesures et plusieurs mises à pied ont été décidées. Lucas Scaltriti.
Oui, David Doucet, rédacteur en chef web au magazine Les Inrocks, mise à pied à titre conservatoire en vue d'un licenciement. Alexandre Hervaux, chef de service adjoint au journal Libération, mise à pied à titre conservatoire. Vincent Glade, pigiste pour le quotidien, mise à pied à titre conservatoire également. Ils ont tous publié des excuses ce week-end. Alexandre Hervaux les présente à toutes celles qui ont été blessées par ces mots en quasiment 11 ans d'activité sur Twitter. Il rajoute que certains témoignages lui ont, je cite littéralement, tordu le bide. Pour Vincent Glade, connu également Pour avoir été chroniqueur dans le grand journal de Michel Denisot sur Canal Plus en 2012, il concède que ce qu'il s'est passé est intolérable. Le journal Libération a donc sévi, mais pour autant Laurent Geoffrin, le directeur de la rédaction, explique qu'il ne s'agit pas d'une sanction.
On a pris cette affaire très au sérieux parce que j'ai lu les témoignages des gens qui ont été victimes de ce cyberharcèlement et que j'ai trouvé révoltant. On a décidé d'ouvrir une enquête interne. Ça peut déboucher sur des sanctions, ça peut déboucher sur autre chose, je ne sais pas, parce que je veux avoir tous les éléments et clarifier le degré de participation des uns et des autres à cette confrérie étrange dont j'ignorais jusqu'à l'existence.
Des sanctions ont été prises en tout cas dans d'autres médias. Brain Magazine arrête sa collaboration avec Vincent Glade justement. Le studio de podcast Nouvelles Écoutes annonce à son tour se séparer d'un de ses journalistes. Enfin, le rédacteur en chef du TAC Parfait, un site d'information sur la culture pornographique, lui démissionne.
Lucas Scaltriti. En vert, blanc et rouge, l'Iran fête le 40e anniversaire de sa révolution. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour célébrer ce jour de février 1979 où l'imam Khomeini a pris le pouvoir et fait tomber le régime du Shah. Mais depuis le rétablissement des sanctions américaines l'an dernier, l'Iran traverse une nouvelle crise économique et le climat est morose, comme en témoigne le reportage à Téhéran de Franck Madvon.
La pluie tombe, mais ne gâche pas la fête dans un Iran victime de pénurie d'eau. Les partisans de la République islamique y voient même un signe du destin. Tenue sobre pour les hommes, tchador pour les femmes, ils affluent place Azadi.
Je suis venu ici car j'étais un enfant au moment de la révolution. Et nous avons accompli tant de choses en 40 ans. Il y a eu tant de succès. Je suis si fier que nous soyons parvenus à maintenir en vie cette révolution.
Les slogans visent Israël et les États-Unis. On montre du doigt les sanctions américaines.
Nous sommes ici pour protéger les valeurs de la révolution, pour saluer la mémoire de nos martyrs et pour prouver à l'Occident que quelle que soit la pression qu'ils exerceront sur l'Iran, nous défendrons la République islamique. Les difficultés économiques sont transitoires, elles n'entameront pas nos convictions.
L'Iran et le président Rouhani bombent le torse, mais la population est divisée. Beaucoup ne sont pas dans la rue aujourd'hui. Voici la réponse d'Aria, 29 ans, quand on lui demande si la révolution a échoué.
Short answer, yes.
En un mot, oui.
It failed.
Ça a échoué.
But,
mais je ne demande pas une autre révolution. Je pense juste qu'il doit y avoir des réformes basiques.
Basic reforms, very basic.
Très basiques. Pour améliorer la situation.
Pour beaucoup d'Iraniens, en cette période de crise, l'anniversaire de la révolution est un non-événement.
Franck Madvon à Téhéran avec Gilles Gallinaro. Le président iranien l'affirme, les États-Unis ne parviendront pas à détruire la République islamique. Alors retour sur ce chemin parcouru en 40 ans avec Christian Chéneau.
Quand la révolution de Khomeini prend le pouvoir à Téhéran en 79, ils sont peu nombreux à lui prédire un grand avenir. Mais le régime a survécu à une guerre dévastatrice contre l'Irak de Saddam. Dès sa naissance, l'Iran révolutionnaire s'est considéré comme un modèle théocratique applicable partout, rappelle la romancière Chadort Javan.
C'est un régime qui a créé Hezbollah. Donc c'est un régime qui a exporté son idéologie islamiste au monde. Khomeini avait une phrase célèbre qu'il martelait. Nous exporterons l'islam au monde entier.
La révolution islamique a bouleversé la société iranienne où trône au sommet le guide suprême. Hier Khomeini, aujourd'hui l'ayatollah Ali Khamenei. Son marqueur le plus symbolique reste l'obligation pour les femmes de porter le voile islamique, poursuit Jadort Javan.
Ça a été une régression de au moins d'un siècle. Bien sûr, il y a les femmes corbeaux qu'on appelle. On appelle ça comme ça en Iran, femmes corbeaux. D'ailleurs, pas femmes corbeaux, les corbeaux noirs, kalorsia, on les appelle en Iran, en persan. Mais dès le début, effectivement, le voile était obligatoire pour tout le monde, dès l'âge de 5 ans, et personne ne pouvait enlever son voile.
Grâce à un appareil sécuritaire tentaculaire incarné par les Pasdaran, la révolution iranienne a pu mater toutes les oppositions intérieures. Mais depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, elle est une nouvelle fois sous pression du grand Satan américain.
Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, envisage de convoquer des élections législatives anticipées. Elles pourraient être organisées le 14 avril. Le Parlement espagnol doit voter mercredi sur le projet de budget 2019 et le gouvernement minoritaire socialiste ne peut s'appuyer que sur un quart des élus au Congrès des députés. Il a notamment besoin du soutien des partis indépendantistes catalans et la dissolution du Parlement pourrait les inciter à réfléchir. Malgré tout, le gouvernement est en difficulté. Benoît Pellistrandi, historien et spécialiste spécialiste de l'Espagne contemporaine analyse la fragilité du gouvernement espagnol, les socialistes étant confrontés à l'opposition de droite, mais étant également eux-mêmes divisés.
Le pouvoir socialiste de Pedro Sanchez vacille moins pour la pression de la droite qu'à l'intérieur même du Parti socialiste. La grande inquiétude, c'est que nous avons des élections municipales et régionales le 26 mai prochain. Des grands barons socialistes vont remettre leur mandat en jeu. Or, la leçon andalouse montre que, avec la montée de la droite radicale et de l'extrême droite, là où les socialistes gouvernaient, ils sont chassés par une coalition des droites. Et les derniers sondages montrent que des 5 régions que les socialistes gouvernent encore, ils pourraient en perdre 4 dans cette configuration-là. Et donc, il y a véritablement une inquiétude de la part des grands barons socialistes à l'égard de la politique erratique de Pedro Sanchez sur la Catalogne. Et c'est ça ce qui a mobilisé la droite et qui inquiète une partie du Parti socialiste. Car le cœur du problème en Espagne, c'est la Catalogne. Et si aujourd'hui est en train de monter une extrême droite en Espagne, c'est que le nationalisme espagnol se remobilise contre le nationalisme catalan.
Benoît Pellistrandi avec Marie-Pierre Véro. Il publie aux éditions Declet Brouwer, Le labyrinthe catalan. Et demain, le tribunal suprême espagnol doit juger 12 indépendantistes catalans. Ils risquent de 7 à 25 ans de prison pour leur rôle dans la tentative de sécession catalane en 2017. 9 d'entre eux sont déjà derrière les barreaux depuis plus d'un an. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de leur combat? Où en est le processus censé mener à l'indépendance? Reportage à Barcelone de Mélanie Núñez.
Depuis plus d'un an, Elisenda Paluzzi est de toutes les mobilisations. Elle décore chaque semaine les rues de Barcelone avec des rubans jaunes, signe de soutien aux prisonniers. Présidente d'une association locale, elle est à la tête de cette base séparatiste qui se bat pour obtenir une république catalane.
La volonté d'indépendance, elle est intacte. La cause indépendantiste a été renforcée, mais en même temps, on est plus conscient de la difficulté à aboutir à cette indépendance. Et on met un lacet jaune qui est le symbole de demande de liberté des prisonniers politiques. Donc il y a eu cette bataille des lacets jaunes, on pourrait dire, avec des groupes qui partaient la nuit, enlever les lacets jaunes avec une certaine violence.
Des groupes appelés quintalassos, littéralement retirer les rubans, des collectifs partisans d'une Espagne unie. José partage leurs idées.
C'est un exemple d'engagement civique pour maintenir la neutralité de l'espace public. C'est fondamental. Il y a deux blocs opposés dans cette société vraiment fracturée. Nous ne sommes pas loin d'un conflit civil. Aujourd'hui, c'est très sensible. Ils ont voulu faire un coup d'État. Alors oui, ils finiront en prison.
Mais une majorité silencieuse renvoie dos à dos les deux camps des Catalans qui estiment qu'il faudrait un référendum démocratique et autorisé comme Rosa.
On ressent beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur. Nous sommes libres, nous pourrions décider, nous pourrions voter. Et alors ils pourraient prendre des décisions, mais nous manquons de leaders.
Car aujourd'hui, qu'ils soient unionistes ou indépendantistes, tous estiment que la classe politique locale n'est pas à la hauteur pour résoudre ce conflit.
Mélanie Núñez à Barcelone pour France Culture. Bruxelles serait-elle devenue un nid d'espions? C'est ce qu'affirme le très sérieux quotidien allemand Die Welt. Selon le journal, quelques 200 agents chinois et 200 espions russes rôderaient dans la capitale européenne. Le reportage à Bruxelles de Johanna Hochstein.
Nous sommes ici au cœur du quartier européen. Les fonctionnaires en costume-cravate, pour la plupart, sortent pour déjeuner. Des diplomates qui seraient donc espionnés par des agents chinois et russes. Une surprise pour les principaux intéressés?
Non. Non. Parce qu'ils ont intérêt pour l'Europe, pour les choses économiques.
Je pense que l'Europe est un centre de pouvoir que les gens n'en ont pas conscience. C'est une preuve, effectivement, de la puissance de l'Europe et de son impact.
Je sais pas. Si vous êtes au courant qu'à Bruxelles, il y a une des plus grosses communautés d'espions du monde. C'est la deuxième après New York.
Les services de sécurité auraient même demandé à leurs employés d'éviter un restaurant du quartier spécialisé dans les grillades et certains cafés, des précautions que prennent déjà ces fonctionnaires roumaines.
Qu'il y a des espions russes, je m'attendais.
Dans les cafés, peut-être même ici.
On ne reste pas dans le café, on va se promener dans le parc.
Les administrations des différentes institutions donnent en fait depuis des années toute une série de directives à leurs fonctionnaires.
Faire attention quand on est dans notre vie privée, de ne pas parler de boulot, mais ça, c'est pas toujours facile.
Il y a quelques-uns qui sont partis sur les social media comme WhatsApp, Instagram et puis des choses comme ça. Moi, je n'ai jamais joint le Facebook, par exemple.
Des Chinois et des Russes, mais pas que. Les espions américains seraient aussi très actifs ici. Bruxelles est d'ailleurs la seule ville au monde où les 17 agences de la communauté du renseignement américain sont représentées.
Demain mardi, ciel gris le matin, sauf dans le sud-est. Les éclaircies s'étendront sur une large moitié sud dans l'après-midi. Les températures minimales de moins 2 à 7 degrés, maximales 4 à 8 sur un grand quart nord-est, 8 à 12 ailleurs, 14 à 18 dans le sud-est. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.